à tous de les deux. Attention pour décompte final. 3, 2, unité, feu.
Radio U, 101.1, à la recherche de la Spoutnik Terre.
Alors, Hangar 3. Alors, ça a l'air d'être celui-là. Ah, j'en connais certains qui ont dû manger leur aspirateur. Waouh. Mais regardez-moi ça. Ah, cette gueule. Cette forme aussi. Ça semble tout droit sorti d'un autre âge. Et cette couleur. Mais d'où est-ce que ça sort d'ailleurs, cette couleur? Imaginez tout ce qu'elle a vécu. Ça doit être la dernière de son genre. Et ça fait des années que ça vole plus, en plus, ça. Est-ce que ça marche encore, d'ailleurs? Bon, de toute façon, il n'y a pas 42 moyens de le savoir. Alors... Ah, ouais. C'est délicieusement ringard, mais ça a l'air fichtrement confortable. Ah ouais. Ah, fichtrement confortable. Ouh. Ah, le nombre de postérieurs que ce fauteuil a dû voir. Et pourtant, après toutes les épreuves qu'il a dû subir, il a su rester aussi moelleux qu'un fondant en chocolat et ferme comme un fessier de cycliste. C'est une sorte de fauteuil de boucle d'or, en fait. Ouais, c'est ça, c'est le fauteuil pile-poil moulé pour les fesses de boucle d'or. Oula, bref, je m'égare. Et il s'agirait quand même de voir si cette capsule a de quoi sortir de sa tanière. Alors, pression du malaxeur. Ok, circuit de Cochrane. Ok, jauge de platiste. 0, super, nickel. Carburateur à double flux. Radio. C'est pas mal ça, c'est même très très bien. Ok, bienvenue Spoutnikarien, à bord de notre capsule spatiale propulsée par les ondes de la radiophonie avec un grand U. Qui, parmi vous, n'a jamais eu la tête au vagabondage en levant les yeux vers le cosmos? Cet espace, bordé d'en bas, et pourtant infini d'en haut. Eh bien moi ça m'arrive souvent. En marchant, en dormant, en parlant, et même parfois en vélo. Bon, le dernier n'est pas très prudent, vous allez me dire, mais là n'est pas le propos. Parce que c'est vrai, quoi! Cet espace est aussi vide d'air qu'il est plein de questions, de mystères, de beauté, et même d'aventures. Allez, avouez-le. Vous aussi, vous l'avez ce frisson quand le héros de votre space opéra préféré se retrouve dans son vaisseau spatial endommagé, face à une Terre dont il ignore tout, ou au moins pas mal de choses. Ce moment où on se retrouve perdu entre l'océan de la découverte et l'île de l'incertitude, à deux pas de la nébuleuse des questions sans réponse. Eh bien, pas besoin d'inverser la polarité des flux, de se torturer les phalanges et de passer en vitesse de distorsion pour les explorer ces mondes étranges. Tous les jours, des explorateurs, épaulés par de vaillants circuits imprimés à grand renfort d'antennes démesurées, sillonnent le cosmos pour répondre aux plus folles de nos questions et en poser de plus dingues encore. Pour partager leur périple, plongeons ensemble la tête la première dans leur carnet de voyage aux airs de scénarios hollywoodiens, plein de cascades et de rebondissements pour une aventure qui se joue de l'espace et du temps. Ah oui, j'avais oublié de préciser un embarquement, mais vous êtes monté à bord d'une capsule qui voyage dans l'espace, certes, mais aussi dans le temps. Bah oui, pour paraphraser un grand professionnel du gigawatt, faut voir grand dans la vie, quitte à voyager dans l'espace et dans le temps, autant que ce soit dans une capsule qui ait de la gueule, non?
Monsieur Peur à capsule 0, vous êtes go pour départ en piste 3.
Oui, juste 30 secondes contrôle, ça fait très longtemps que cette capsule n'a pas volé, et j'ai un peu de mal avec les contrôles.
Alors, mais c'est dingue ça, où est-ce qu'ils ont mis le pilote automatique? Non, c'est pas ça. Non, toujours pas. Oh, bon, il est où ce truc? Alors... Ah, c'est bon, je le tiens.
C'est bon, contrôle, on est sur le départ.
Amateurs de belles choses, attachez bien votre ceinture. Nous ouvrons aujourd'hui le carnet de voyage de Cassini. Pas celui de Giovanni Domenico de Cassini, astronome de son état à cheval entre le 16e et le 17e siècle, mais celui de la sonde spatiale qui porte son nom. Notre destination ? Saturne, joyau du système sur la couronne du roi Soleil. Nous partons à l'assaut d'un titan à 1,4 milliard de kilomètres de notre monde. C'est si loin qu'à la vitesse d'une voiture sur l'autoroute, cela nous prendrait plus de 1200 ans pour nous y rendre. Il faut dire que la planète géante n'usurpe pas son titre, puisqu'avec un diamètre moyen de 116 000 km, il faudrait aligner plus de 9 fois la Terre pour couvrir la distance. Quant à ses anneaux, c'est carrément plus de 21 Terres qu'il faudrait aligner, soit 274 000 km. Vous rendez-vous compte? Eh bien, malgré ces chiffres volant très haut, la planète aux anneaux se fait surclasser à tous les niveaux par sa voisine de classe, Jupiter. À tous les niveaux? J'ai peut-être un peu menti. Car si la sixième planète du système solaire ne gagne pas la bataille des chiffres, elle gagne assurément la bataille du look, et ses anneaux la rendent reconnaissable entre toutes. Ces anneaux, justement. Pourquoi la belle géante a-t-elle droit à un ornement si clinquant? À la recherche de la Spoutniter, partons ensemble à la découverte de Saturne sur les traces du mystère de ses anneaux. Bon, alors, il s'agirait quand même de modifier un peu cette ambiance sonore, mettre quelque chose, disons de plus enjaillant. Alors, comment ça... Oui, d'ailleurs, comment ça marche, cette autoradio? Le bouton... Ah, voilà le panneau de contrôle. C'est bloqué sur aléatoire. Ok. Je suis dans une capsule spatio-temporelle antique, avec une demi-douzaine de systèmes sûrement en cours de décomposition. Donc bon, on va dire que j'aime le risque. Allez, c'est parti.
Spanien und
der Pierda. Statistik gewählt. Sitzung des X.
Oula, ça démarre mal. C'est pas la musique de Titanic, ça d'ailleurs, hein? Est-ce que je devrais voir ça comme un film? Bon, rien de grave, on va juste changer de station et oublier ça. Bon, faudrait quand même se dépêcher, histoire qu'elle commence pas à chanter. Et merde, j'ai pété le bouton. Eh ben bravo, super, encore une belle performance. Et galère, c'est quand même la tuile. Je vais quand même pas rester coincé avec Céline Dion jusqu'à l'autre bout du système solaire. Oh, et nom de Dieu, voilà le refrain qui vient. Faut que je trouve un moyen d'éviter ça. Vite. Réfléchis. Le volume. Je peux baisser le volume. Et galère, la molette qui me reste entre les mains. Oh, mais elle est faite en quoi, cette stéréo? En Kunyamen? Et voilà, ça y est, ça part. Oh non. Wouh! Ça a pété de la tarte, hein. Mais heureusement, la stéréo a rendu l'âme juste après Jupiter. Bon, je l'ai un peu aidé, mais elle a un peu forcé en enchaînant sur Michel Sardou, et là, franchement, moi, j'ai craqué. Enfin, bref. Après un léger bond dans le temps, nous voilà en 2018 face à Cassini. Approchons-nous de cette fière sonde spatiale de la taille d'un bus, lancée en 1997 depuis Cap Canaveral en Floride, et arrivée aux abords de Saturne en 2004. Pour les accros du circuit électronique, elle embarque 12 instruments scientifiques et une antenne de 4 mètres de diamètre. Le tout alimenté par un générateur thermoélectrique à radioisotope, non pompeux pour une sorte de pile nucléaire. On n'oubliera également pas ces deux moteurs principaux placés à l'opposé de l'antenne, dont un redondant en cas de problème, parce qu'on sait jamais. Allez, trêve de badinage et regardons plus loin. Car si à bonne distance, les anneaux paraissent uniformes, ils prennent de près une toute autre forme. Une, ou plutôt des formes. Car approchons-nous pour constater qu'en réalité, les anneaux sont composés de blocs de glace et de roche dont la taille varie du grain de poussière à la Villa Californie. On pourrait les croire dans un balai éternel, hein ? Tournant autour de la belle géante pour l'éternité. Et pourtant, regardez sur votre gauche. Vous la voyez? Cette petite hélice, en forme de pale de mixeur, qui se promène le long des anneaux comme pour brasser l'ensemble. Eh bien, au centre de l'hélice se trouve une lune, une toute petite lune de quelques centaines de mètres de diamètre. Son but dans la vie ? Grandir. De la même façon que par un froid matin de décembre, vous avez fabriqué un bonhomme de neige, elle agrège des poussières et des blocs de glace, prenant chaque tour un peu plus de masse. C'est exactement comme cela qu'il y a longtemps, la Terre, Mars, Saturne et toutes les autres planètes du système solaire se sont formées. À ce stade, chers voyageurs, vous êtes persuadés que cette vaillante boule de glace deviendra un jour une grande et belle lune de plusieurs dizaines de kilomètres de diamètre et que les anneaux finiront par disparaître. Eh bien, il n'en est rien, car la petite boule est condamnée à être détruite à chaque fois qu'elle dépasse sa taille actuelle. La responsable ? La force de marée, la même que celle qui vient vous surprendre l'été sur la plage. Or, cette force est d'autant plus grande qu'on est proche d'une planète, et les anneaux de Saturne sont proches de leur planète, trop proches, au-delà de ce qu'on appelle la limite de Roche. La limite de Roche, c'est une limite au-delà de laquelle un objet comme notre boule de glace ne peut pas grossir et devenir une lune. C'est cela qui condamne les anneaux à rester un ensemble de poussière et de blocs éparses, faisant ainsi une réminiscence frustrée de la formation du système solaire. Allez, manœuvrons et changeons de trajectoire pour passer entre la planète et ses anneaux. Car c'est comme ça que Cassini, arrivant en fin de vie, a fait une découverte surprenante. C'est dans cette zone alors inexplorée que le vaisseau a entrepris une série de manœuvres aussi complexes que périlleuses, effectuant plusieurs passages de plus en plus rapprochés de la géante, jusqu'à plonger dans cette dense atmosphère et de s'y consumer dans un final aussi grandiose qu'explosif. Avant sa destruction, la sonde utilisa ses dernières ressources pour pointer son antenne vers la Terre et envoyer aux scientifiques du monde entier de précieuses informations. Bon, on va tâcher de ne pas en arriver là et maintenir notre capsule à une orbite haute et stable. Mais sachez tout de même que parmi toutes ces informations, une fait apparaître une réalité surprenante. Les anneaux sont jeunes, très jeunes. En effet, là où Saturne, comme la Terre d'ailleurs, affiche 4,5 milliards d'années au compteur, les anneaux, eux, n'en afficheraient que moins de 100 millions. Un battement de cils à l'échelle cosmique, une époque pas si lointaine où les dinosaures étaient déjà sur la fin à la surface de notre planète. On ne sait pas vraiment comment sont apparus les anneaux, et plusieurs théories existent. On a par exemple longtemps pensé qu'il s'agissait des restes d'une immense lune s'étant un peu trop approchée de la géante, mais rien n'est vraiment certain. Fin de l'histoire ? Pas vraiment. Car si l'on parle des anneaux de Saturne, c'est évidemment parce qu'il y en a plusieurs, numérotés de A à G. Or, tous ne sont pas visibles au premier coup d'œil, et les anneaux de A à D, les plus connus, ceux que l'on vient de survoler, ne sont en fait pas les plus grands, mais surtout les plus brillants. Vous vous souvenez tout à l'heure des 21 Terres alignées pour couvrir le diamètre des anneaux ? Eh bien, je ne parlais que de cela, parce que derrière eux s'étend celui que l'on appelle l'anneau E. Retournons-nous et regardez par vous-même. Alors, d'après les instruments de bord et la base de données de Cassini, il n'est pas vraiment comme les autres. Déjà, il est plus grand, 3,5 fois le diamètre précédent. On en arrive carrément à 38 Terres, ou 3715 heures de traversée en bagnole non-stop et sans air de repos. Vous imaginez ?
Attendez, non seulement il est plus grand, mais en plus il est plus épais, 60 000 km.
La composition de l'anneau E est également très différente et son origine semble plus que surprenante. Il est situé au-delà de la limite de Roche. Cela permet à plusieurs lunes d'orbiter au travers. Parmi elles, Encelade, petit monde de glace d'à peine 500 km de diamètre. Cette lune, froide et morte en apparence, abrite pourtant sous son épaisse couche de glace un océan liquide. Une véritable prouesse à cette distance du Soleil. Bon, là encore, c'est la force de marée qui intervient. Elle déforme tellement l'astre qu'elle en liquéfie les profondeurs. Ainsi, de temps à autre, vient à jaillir au travers de la croûte des geysers spatiaux montant si haut qu'ils échappent à la gravité de la petite lune venant alimenter en matériaux l'anneau E. Cassini a pu en voir plusieurs de ces geysers au cours de son voyage, et on pense même que Voyageur 1, son prédécesseur, en a même traversé un. Si Saturne fait tourner toutes les têtes, les autres planètes géantes, Jupiter, Uranus et Neptune, ne sont pas en reste, puisqu'elles aussi possèdent un système d'anneaux discret mais bien réel. La Palme revient cependant une exoplanète répondant au doux nom de J1407b, située à 420 années-lumière de la Terre dans un autre système solaire. Cette dernière possède des disques 200 fois plus grands que ceux de Saturne, faisant d'elle un véritable seigneur des anneaux au pays des bijoux spatiaux. Cassini a permis aux scientifiques de lever le voile sur bon nombre d'énigmes que Saturne et ses anneaux nous posaient. Cependant, et comme souvent en science, les réponses apportent de nouvelles questions et chamboulent pas mal d'hypothèses préétablies. Encelade fait par exemple figure de grosses épines dans le pied dans les hypothèses utilisées précédemment pour la recherche de vie. Et si l'on pensait que la vie ne pouvait se développer que dans des zones très précises et très petites, ni trop près, ni trop loin d'un soleil, à cause des conditions de température nécessaires à la présence de liquide à la surface d'un monde, l'océan souterrain d'Encelade nous invite à nous poser pas mal de nouvelles questions, et il faudra envoyer d'autres vaisseaux, d'autres explorateurs, et ouvrir de nouveaux carnets de voyage pour y répondre.
Spatioport à capsule 0, vous êtes en approche finale, merci de réduire votre vitesse sous les 32 rutabaga.
Ah, on arrive à notre prochain arrêt, et il va falloir nous quitter pour aujourd'hui. Ici s'achève donc le carnet de voyage de Cassini. Enfin, pour l'instant. Nous poursuivrons notre route plus tard. Vous êtes dispo ? J'espère que oui, car cette capsule vous emmènera traverser à nouveau des geysers cosmiques, randonner sur les plus hauts sommets du système solaire, regarder la naissance d'une étoile, plonger dans des atmosphères lointaines et suffocantes, pour arpenter plus tard les plaines de planètes naines, et voyager plus loin que personne avant vous, à bord d'une capsule spatio-temporelle, tout droit sortie des poubelles, mais tout de même équipée d'une stéréo fonctionnelle. Attendez, stéréo fonctionnelle ? Oh bigre, je m'en étais pas rendu compte. Bon, bref, en attendant, chers voyageurs, ce long voyage qui se profile devant nous, gardez la tête en l'air, les yeux ouverts, à la recherche de la Spoutniter. Allez, soyons forts. Oh, galère, oh non, oh.